Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Swiss Bliss. Nous sommes le 22 février 2025 et on vient de terminer une semaine assez compliquée. Vous l'avez vu, compliquée à cause d'un certain désintérêt général pour tout ce qui est de la macro et de la micro. Et puis une ultra concentration de nouvelles géopolitiques. Un marché normal, c'est un marché qui s'équilibre habituellement entre ces trois axes, macro, micro et géopolitique. Mais force est de constater que depuis l'arrivée de Trump, il n'y a plus que Trump et le nombrilisme américain qui maintient l'attention des intervenants. Enfin, pour le moment. Bon, j'exagère un peu, parce qu'il est vrai que cette semaine, on a quand même beaucoup parlé de réarmement en Europe, ce qui a fait tirer tout le secteur qu'on appelle, pour être politiquement correct, le secteur de la défense. Et puis, il y avait aussi l'Allemagne qui est pleine d'espoir de voir son gouvernement de gauche voler en éclats ce week-end, tout en se demandant secrètement ce qui se passerait si ça virait sérieusement à la droite de la droite. Bref, on fait le point tout de suite sur cette semaine, juste après ça. Donc si on doit reprendre ce qui s'est passé ces derniers jours, il faut se concentrer sur les négociations de paix au sujet de la guerre en Ukraine. Les Américains sont en train de parler avec les Russes, les Ukrainiens et les Européens sont pas contents parce qu'ils sont pas assez impliqués dans les discussions. Macron pédale dans tous les sens pour qu'on écoute l'Europe et la semaine prochaine, il va à Washington pour expliquer à Trump sa façon de penser. Selon certaines sources, Trump est terrorisé de le voir arriver là-bas. Les espoirs de paix ont donc encouragé les Européens à investir massivement dans l'armement parce que pour avoir la paix, il faut préparer la guerre. On a vu que le secteur en question avait des ailes. Pendant ce temps, la Suisse faisait son bilan économique. Alors, l'économie suisse a enregistré une croissance modérée de 0,8% en 2024, bien en dessous de sa moyenne historique qui est à 1,8%. L'industrie a bénéficié d'une certaine dynamique favorable grâce aux exportations du secteur chimique et pharmaceutique. Mais par contre, du côté des services, c'était un peu la soupe à la grimace puisque la performance annuelle, elle est plus faible que la moyenne historique. Alors évidemment, c'est tout de la faute au Francfort qui a pas mal pesé sur la demande qui venait de l'étranger, surtout du côté de l'hôtellerie et de la restauration. On notera encore que les branches de l'industrie et de la construction ont connu une évolution positive au quatrième trimestre de l'année dernière. La production dans le secteur secondaire a légèrement augmenté à 2,2% par rapport au même trimestre de l'année précédente. Et les chiffres d'affaires ont grimpé grosso modo de 2,6%, donc ça va quand même pas si mal que ça. Toujours en Suisse, les exportations et importations ont affiché une évolution négative en janvier, principalement en raison de la mauvaise performance du secteur de la chimie et pharmaceutique. Par contre, bonne nouvelle pour les montres portées par le haut de gamme. L'industrie horlogère suisse a retrouvé un peu la niaque. Ces derniers temps, c'était pas terrible. Après 4 mois consécutifs de repli, les exportations ont rebondi de 4,1% à 1,99 milliard de francs suisses. Et puis alors mercredi, alors qu'on se posait des questions sur l'Ukraine et qu'on cherchait à savoir combien de temps qu'il fallait commander avec quelles options, Trump a ressorti l'arme des négociations massives en annonçant des taxes douanières de 25% sur les voitures et les semi-conducteurs. On en avait parlé dans le Morning Bull. Les marchés ont donc commencé à douter, les USA n'arrivaient plus vraiment à monter, on a senti une espèce de démission et l'Europe s'est enfoncée gentiment dans la crainte des conséquences douanières et d'une éventuelle guerre commerciale. Et puis les chiffres économiques ont commencé à se dégrader et là, du coup, on a commencé à s'y intéresser de nouveau. Et alors, pour finir la semaine, ça s'est terminé vraiment dans le doute absolu, alors que les Européens ont relativement limité la casse hier. Ce vendredi, les Américains, par contre, se sont effondrés à cause d'une succession de chiffres économiques qui remettent en cause la santé même de l'économie. Et certains même commençaient à ressortir le fameux terme de stagflation. En février, le moral des consommateurs américains a chuté. C'est selon les chiffres de l'Université du Michigan. Ils sont au plus bas depuis 2 ans, tandis que les prévisions d'inflation ont atteint un pic depuis novembre 2023, alimentées donc par les craintes liées aux droits de douane. Alors oui, bien sûr, c'est les chiffres de l'Université du Michigan. C'est basé sur un sondage qui est fait par téléphone auprès de 500 personnes. Sur 330 millions d'habitants, on peut quand même dire que c'est limite comme échantillon. Enfin, peu importe, ça a suffi pour instiller le doute dans la tête des investisseurs. On sait aussi que la croissance du secteur privé est en train de ralentir, l'optimisme des entreprises diminue, surtout face à certaines incertitudes économiques, les droits de douane encore une fois. On a vu d'ailleurs les chiffres de Walmart dans le courant de la semaine, on sent que le consommateur, eh bien, ça devient un problème et il se serre la ceinture. Alors ensuite, vous avez encore le marché immobilier qui est pas en super forme, les ventes de logements existants sont en train de reculer en janvier, c'est vrai que les taux hypothécaires ne baissent pas non plus et les prix sont méga élevés pour l'instant, et, malgré les baisses de taux de la Fed. Pour l'instant, l'accessibilité au logement aux États-Unis, ça reste quand même un sacré problème. Et pour l'instant, c'est vraiment quelque chose qui commence à stresser un petit peu le marché. Bref, tout ça pour dire que l'accumulation de tout ça donne l'impression aux Américains que l'économie ralentit et que pour l'instant, je dis bien pour l'instant, la magie Trump n'a pas encore fait son effet. Et puis, il n'y a pas besoin d'aller chercher très très loin. La semaine dernière, l'inflation monte et montre non seulement qu'elle ne baisse plus, mais en plus, cette semaine, eh bien, on apprend que l'économie montre des signes de ralentissement. Et le consommateur a l'air de caler. Avec ça, il n'y a pas besoin d'avoir fait des études de physicien nucléaire pour être capable de faire la simple addition. Croissance molle plus inflation en hausse égale stagflation. Pas loin de penser que ce sera le mot de la semaine prochaine d'ailleurs. Et comme je suis en vacances et qu'à chaque fois que je suis en vacances, il se passe des trucs fous sur les marchés, eh bien ça pourrait swinger. Sans compter que Trump va sûrement nous annoncer un truc ce week-end. Et du côté des performances de la semaine, eh bien vous le voyez, hein, ça rigole toujours du côté de la Chine puisqu'il y a un engouement assez spectaculaire au niveau de l'intelligence artificielle plus des chiffres d'Alibaba qui étaient plutôt encourageants. Donc sur la semaine, bonne semaine du côté de la Chine. L'or qui est toujours pas loin de plus haut de tous les temps. L'Italie qui termine en hausse probablement à cause des achats sur le secteur de l'armement, la Chine qui consolide, on va dire, le SMI qui termine en hausse, et puis alors tout le reste est dans le rouge. Alors pas de beaucoup sur des endroits comme le CAC, on voit qu'il y a un peu plus d'hésitation sur le DAX, et le pétrole est toujours entre deux, on va dire, pour l'instant, on oscille toujours entre les 70 et les 72 dollars en fonction des news économiques, et puis vous voyez, le S&P 500, moins 1,66%, le Dow Jones, moins 2,51%, le Nasdaq, moins 2,51%, et puis on notera au milieu de tout ça également le Dow Jones des transports qui perd 3,45% sur la semaine et le semi-conducteur index, on le verra sur les graphiques tout à l'heure, qui ne perd que 0,47%, c'est une bonne nouvelle. Mais lui, il attend surtout ce qui va se passer la semaine prochaine avec les chiffres de Nvidia. Du côté des performances du SMI, alors vous voyez en vrac, il y a à boire et à manger cette semaine. La représentation du SMI qui gagne 0,75% sur la semaine est assez flagrante. Le CIM qui repère un peu du terrain qu'elle avait gagné la semaine dernière. Zurich qui a publié ses chiffres, on va en reparler tout à l'heure. Nestlé qui continue à être plutôt bien impressionné en ce moment avec une hausse de 3,18% sur la semaine. Novartis plus quasiment 3% de hausse. Roche en hausse de 1,32%. C'est clair, quand vous avez ces trois-là, comme d'habitude, un peu à l'image de ce qu'on a vécu ces derniers temps, c'est difficile de faire baisser le marché quand vous avez ces trois-là qui montent, et vice-versa, comme on a souffert ces dernières semaines. Swisscom qui consolide après sa mauvaise semaine la semaine dernière, et puis autrement, eh bien, pas grand-chose d'autre à noter, hein. Zéro mouvement sur l'UBS qui est en hausse de 0,46% sur la semaine, et Givaudan qui perd 3,25%. Du côté des graphiques, vous voyez que le SMI, eh bien, termine relativement bien la semaine. On est par contre, évidemment, on est juste en dessous de cette résistance des 12 950, on va dire des 13 000, parce que finalement, c'est plus psychologique. Mais on bute là-dessus et pour l'instant, on n'arrive pas à casser. On est toujours dans notre tendance haussière sur le SMI, donc il n'y a rien à dire pour l'instant. Enfin, on continue notre bonhomme de chemin, un indice qui est très très fort pour l'instant. Ça nous change de ce qu'on a vécu l'année passée, mais pour l'instant, il va bien. Donc le challenge de la semaine prochaine, si tout va bien, ce sera de casser cette résistance. Maintenant, par rapport à ce qui s'est passé hier aux États-Unis, si ça continue à peser dans cette direction, pour autant que Trump nous sorte encore une nouvelle négative ce week-end, ça risque d'être difficile d'aller casser cette résistance, en tout cas en début de semaine. Et c'est vrai que si on regarde un peu plus loin l'indice, bah notre risque, c'est d'aller chercher ce support qui est ici, donc qui se situe autour des 12 700. On doit absolument rester dans ce canal pour pouvoir rester en vie et espérer casser plus haut. Si jamais vous venez à sortir de là, attention, parce que là, il y aura certainement pas mal de gens qui vont se poser des questions et qui voudront prendre des profits. Le S&P 500, alors, vous voyez, tout à l'heure, je vous disais que dans le courant de la semaine, on a quand même eu évidemment, j'ai cherché les plus hauts historiques la semaine dernière sur le S&P 500, mais vous voyez que cette fin de hausse, là, ces trois journées de hausse où on va chercher les plus hauts historiques, c'était quand même très chiant, excusez-moi du terme, et on sentait qu'il n'y avait pas vraiment une dynamique et que le marché n'avait pas vraiment envie d'y aller. On avait aussi cette zone-là, ces indicateurs qui disent qu'on est un petit peu cher pour l'instant. Et donc, résultat, on a eu cette fin de semaine assez négative qui nous renvoie très très bas. Alors très très bas. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on a tenu la moyenne mobile des 50 jours qui passe par les 6004 pour être précis. Donc on a tenu les 6000, on s'arrête juste au-dessus des 6000. On s'arrête sur cette moyenne mobile des 50 jours ici, ce qui est plutôt positif. Par contre, si on regarde un petit peu la tendance que j'avais tracée à l'époque, qui se trouve ici, hein, cette tendance-là, eh bien celle-ci, elle a cédé en fin de semaine. Ces deux derniers jours de trading sur les États-Unis sont pas super encourageants. Et c'est vrai que si vous mélangez ça avec les chiffres économiques qu'on a eus et ce doute tout d'un coup qu'on a dans la tête par rapport à la problématique du consommateur américain, il ne faudrait pas que ça dure trop longtemps parce que sinon on peut rapidement se retrouver dans une situation bien dégueulasse. La ligne blanche, c'est la moyenne mobile des 100 jours. Vous savez qu'on regarde tous la moyenne mobile des 200 jours qui est à 5721. On a encore un peu de marge de ce côté-là. Mais voilà, attention à surveiller quand même qu'on fasse pas des exagérations, qu'on fasse pas les fous dans cette zone-là. Le Nasdaq, c'est pareil, hein. Vous voyez que le Nasdaq, pour l'instant, eh bien, il a une fin de semaine assez délicate. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et on va vous le répéter. Alors, je ne serai pas là, mais vous le répétez toute la semaine. Nvidia mercredi, Nvidia mercredi, Nvidia mercredi. Donc, forcément, ça sera un gros point hyper important pour la tech en fin de semaine. Mais on voit que à l'approche du week-end, plus les mauvaises nouvelles, plus le fait qu'on sait que tous les week-ends, Trump il nous sort des trucs, les gens n'ont pas voulu rester trop longtemps là-dedans. Petit détour sur notre indicateur avancé, le SOX. Alors vous voyez que toujours ce trading range latéral, hein, je vous le refais toutes les semaines, mais je vous le referai jusqu'à qu'on arrive vraiment à sortir. Pour l'instant, on est dans une tendance latérale sur le SOX. Et vous voyez que pour l'instant, on n'arrive pas à sortir. Hein. Donc toujours en bas, 4800 et en haut, 5400 et des poussières. Tant qu'on va pas à 5600, il n'y a pas de quoi s'exciter. Quand on y sera, tout le monde vous dira, oui, mais on va aller combler le gap ici, donc on ira chez les plus hauts historiques. Mais voilà, tout ça, je pense qu'on aura une idée de la bonne direction qu'on va prendre, celle-ci ou celle-là, dès la publication des chiffres de Nvidia, qui, je vous le rappelle, seront publiés mercredi soir, après la clôture. Petit détour en Europe, je vous montre que le DAX, parce que de toute façon, c'est plus ou moins la même chose, le même type de comportement entre la France et l'Allemagne. Alors effectivement, les marchés européens ont été perturbés la semaine dernière par toutes ces histoires d'armement. Donc, il y a eu pas mal d'engouement sur des boîtes comme Rheinmetall, entre autres. Mais c'est vrai que là, maintenant, l'Allemagne hésite. Alors, l'Allemagne hésite, elle a laissé un gap un tout petit peu en dessous, donc elle pourrait aller chercher un peu plus bas. Mais comme je vous le disais, le gros challenge pour les Allemands, c'est les élections de ce week-end. Est-ce qu'ils vont tourner à droite, au centre ou tout à droite? La tension est assez palpable. Alors, a priori, une victoire totale de l'extrême droite semble virtuellement impossible. Mais s'ils prennent trop de pouvoir, effectivement, il y aura pas mal d'interrogations. Qu'est-ce que sera comme conséquence économique? On n'en sait rien. De toute manière, le DAX n'est pas monté non plus parce que c'est l'économie allemande qui va bien. Le DAX est monté parce que les boîtes vont bien et qu'elles vendent surtout à l'étranger. Maintenant, l'état économique de l'Allemagne, eh bien, c'est clair qu'avec un virage à droite, on espère des améliorations économiques et un soutien de la part du gouvernement. Mais d'un point de vue technique, pas besoin d'avoir fait des grandes études pour se rendre compte que, en fait, le graphique est vraiment super étendu, que le DAX n'arrête pas de monter, que vous voyez que les angles de la hausse sont juste complètement délirants. Alors oui, il y a des canaux haussiers, mais vous voyez, ça c'est un canal haussier normal, celui qu'on a depuis août l'année passée, ça c'est une tendance haussière normale, là c'est plus une tendance haussière normale, parce que sinon on va continuer à faire des trucs comme ça, et puis là c'est plus des graphiques, c'est le chart d'une fusée SpaceX qui monte dans l'espace. Donc faisons quand même un tout petit peu attention, je l'ai déjà répété plusieurs fois, le DAX c'est pas forcément cadeau, il est dans une hausse stratosphérique depuis le début de l'année, à la moindre mauvaise nouvelle ou à la moindre coup de déprime, les prises de profit pourraient être quand même assez conséquentes sur le DAX. L'or est au plus haut de tous les temps, on n'arrive pas à toucher les 3000, mais enfin voilà, pour l'instant c'est une question de semaine, on va y aller, faut pas s'inquiéter, mais pour l'instant l'or est au plus haut de tous les temps. Le pétrole va dans tous les sens, hein, donc là c'est entre guerre, pas guerre, paix, pas paix, nouveau forage, température trop froide pour forer aux États-Unis, inventaire un peu trop élevé, donc pas mal de choses qui se passent sur le baril. Je crois que ce qu'il faut retenir sur le baril, c'est que pour l'instant on a ce support qui passe par là et qui finit là, donc en gros les $68 sur le baril qui ne doivent pas lâcher, et je dis doivent pas lâcher en majuscule et en caractère gras, on a encore un peu de marge pour aller chercher les plus bas, je serais plutôt acheteur sur le niveau des 68 si on y allait pour essayer de jouer un rebond, mais on voit que pour l'instant dans un trend un peu plus court sur ces quelques jours depuis le début du mois de février, Pour l'instant, on oscille entre 70 et 72,5 et on n'arrive pas vraiment à prendre une direction. Mais c'est vrai que si on regarde un peu les données macroéconomiques qui nous étaient données sur le pétrole ces derniers temps, eh bien, y a à boire et à manger et ça n'a pas vraiment donné d'indication très précise sur la direction à suivre au niveau du baril, même si on sait toujours, bien sûr, que Trump aimerait qu'il baisse. Dans les vedettes de la semaine, on attaque tout de suite avec Lonza, puisque le sous-traitant pharmaceutique Balois semble avancer gentiment dans la cession de son activité de gélules et de compléments alimentaires. Là, cette semaine, ils ont annoncé qu'ils avaient enfin désigné les banques d'investissement chargées de la vente de cette unité commerciale. C'était Bloomberg qui l'a annoncé en début de semaine. Alors, pour être franc, ça n'a pas généré une passion délirante sur le titre. Pour autant, puisque cette semaine, sur la semaine, le titre était quand même en baisse de 2%. Vous voyez le graphique de Lonza. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on est revenu très très bas sur les indicateurs ici, sur mes indicateurs là, qu'on a aussi là derrière. Donc là, on est plutôt bien positionné. Le titre a l'air de revenir gentiment sur des niveaux où, pour des traders, on pourrait commencer à essayer de faire quelque chose pour jouer éventuellement un rebond si on tient la moyenne mobile qui est par ici. Donc il y a peut-être un truc à jouer ici. Sinon, eh bien, il faudra attendre qu'on revienne gentiment en direction des 550 pour se repositionner lorsqu'elle touchera les 550 francs suisses. Si elle y va. Hurlicon a gagné 6,1% sur une séance cette semaine, malgré le fait que la société a montré une activité freinée sur l'année dernière pour cause de restructuration. Mais en fait, ce que le marché a retenu dans les publications de Hurlicon cette semaine, c'est une seule chose, c'est le bénéfice net qui s'est envolé. On peut dire que pour l'instant, la restructuration qui a été mise en place ces derniers temps est en train de payer chez Hurlicon. Donc, petit retour de l'enthousiasme à un certain point de la semaine. D'un point de vue graphique, ça montre ça. Hein. Donc, vous voyez finalement qu'il y a quand même un graphique qui est en train de montrer qu'on a fait un fond à un certain moment. Et puis là, il y a quand même eu pas mal de gens qui ont dû jouer les résultats, qui étaient peut-être un petit peu bien informés. Bref, en tous les cas, le titre s'est bien redisposé. On a cassé la moyenne mobile des 100 jours, la blanche, là au milieu. Et puis là, vous voyez qu'on va gentiment se donner une nouvelle tendance qui va arriver ces prochains temps. Donc plutôt pas mal. Ça a l'air d'aller vers le mieux, comme je vous le disais, au niveau des restructurations. Techniquement, c'est clair que là où elle est revenue, ça va être difficile de passer la moyenne mobile des 200 jours comme ça sur Hurlicon, mais sur faiblesse, on peut peut-être commencer à essayer de jouer une nouvelle tendance sur Hurlicon ces prochains temps, pour autant que leur restructuration continue de fonctionner aussi bien. Chez Basilea, alors Basilea, c'est pratiquement la vedette de la semaine. La société a donc publié des chiffres hyper solides à tous les niveaux et surtout grâce à des nouvelles acceptations, validations de médicaments et des partenaires de distribution. Alors cette excellente performance a permis donc d'augmenter les liquidités de la société. Et puis entre janvier et décembre 2024, l'entreprise a vu son chiffre d'affaires qui a explosé de 32,3% à 208,5 millions de francs suisses, notamment porté par les ventes du Cresemba et des paiements d'étapes en fonction de certaines évolutions, alors que les coûts opérationnels ont enflé de 6,5% quand même. C'est ce qu'a annoncé Basilea la semaine dernière. Le bénéfice net a été multiplié par 7 à 77,6 millions. En gros, ce fut une très très belle semaine pour Basilea qui est quand même en hausse de plus de 13% sur 5 jours. Voilà, alors là techniquement, ça se passe de commentaires. Vous avez une tendance latérale qu'on avait identifiée il y a quelques temps déjà en arrière. La semaine dernière, on a tout pété. Donc quand vous avez un titre qui traite dans un range depuis pas mal de temps, vous voyez, bam, 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 bam. Et là, on consolide depuis un moment. Ceux qui ont joué le bas du range pour se dire, bah, je rachète à 40, j'espère qu'elle monte à 44, et ben, carton plein. Par contre, maintenant, on a cassé le range. Donc, on va attendre la semaine prochaine pour voir un peu la confirmation. Si le titre revient sur les 44 et qu'il ne lâche pas les 44, il faudra essayer de jouer le rebond pour voir la continuité, si on peut continuer à aller plus haut. Mais souvenez-vous de ce range, parce que pour l'instant, il marche quand même pas mal depuis 5-6 mois. Quelque chose qui pourrait être intéressant à surveiller. Et si la confirmation se présente, eh bien, peut-être que l'avenir de Basilea se présente beaucoup, beaucoup plus haut. Et si on revient dans le passé, c'est clair qu'on a peut-être du potentiel de rattrapage encore sur Basilea. Dure semaine, en revanche, chez Siegfried. Le sous-traitant pharmaceutique argovien a annoncé des recettes en légère progression pour l'année dernière, ainsi qu'une hausse plus que proportionnelle de la rentabilité. L'année en cours devrait s'inscrire dans la continuité, mais le marché n'a pas super adoré le package global et le titre était pas mal sous pression en milieu de semaine. Le PDG a ensuite déclaré être à la recherche d'une fusion ou d'une acquisition pour accélérer le développement de la société. Vous avez le graphique de Siegfried. Alors, hop, hein, vous voyez qu'on a quand même une période assez bullish ces derniers mois. Et là, depuis un moment, on patine dans la semoule, comme on pourrait dire ça. Alors, d'un point de vue très court-termiste, on voit que cette espèce de phase de récupération dans laquelle nous étions depuis quelques temps, eh bien, c'était effacé avec l'annonce de l'autre jour, quasiment. Et on revient de nouveau au plus bas sur la zone, cette zone-là qui avait déjà fait office de support. Alors bon, le titre termine la semaine à 996 francs suisses. Ça peut encore osciller pas mal autour des 950. Si on venait dans cette zone-là, techniquement, c'est des points d'entrée pour essayer de jouer un rebond à très court terme. Maintenant, d'un point de vue fondamental, on voit quand même que c'était pas super, super génial. Mais bon, on va garder un peu d'espoir là-dessus, à surveiller ces prochains temps. Le mot fusion-acquisition est toujours quelque chose qui permet de limiter les mauvaises nouvelles sur les titres où il y a peu d'informations. Alzo a augmenté son dividende, mais ça n'a pas suffi pour satisfaire les investisseurs. En tout cas, le jour de l'annonce, il faut dire que la société lucernoise a vu ses ventes et ses bénéfices reculer l'an dernier. Et dans la foulée, Fontopel a baissé son objectif de cours à 300 francs contre 320 auparavant. Le groupe prévoit également de nouveaux rachats d'actions. Mais bon, notez bien, on s'en foutait pas mal globalement des chiffres parce que dans la foulée, le lendemain, la société a reçu son approval de la part des autorités pour sa fusion avec West Coast. La finalisation de la transaction est prévue le 28 février. Donc entre le pire moment de la semaine et le jour des résultats à la fin de la semaine, le titre a repris quand même 10%, donc plutôt une belle semaine finalement sur Alzo, alors que c'était plutôt mal embarqué. Alors vous voyez, graphiquement ça ressemble à rien, mais en tout cas sur l'annonce, vous avez donc l'annonce des chiffres, boum, le titre se fait déglinguer, on va chercher les plus bas ici, et puis ensuite l'approuval de la fusion, et on récupère les 10%. Bon, maintenant il faudra voir comment ça va se faire au niveau de l'intégration et comment ça va se passer au niveau du titre. Pour l'instant, belle semaine l'un dans l'autre pour ceux qui ont su jouer. Il n'y en a pas beaucoup, évidemment, j'imagine. Mais en tout cas, belle semaine sur Alzo. Chez Straumann, le spécialiste des implants dentaires a dégagé un bénéfice de 459 millions de francs l'an dernier, 10 millions de plus qu'un an auparavant. Mais sa performance s'est révélée inférieure aux attentes des analystes, en particulier en matière de rentabilité. Les analystes estiment plutôt positive l'évolution des ventes, surtout au quatrième trimestre, avec une croissance organique accélérée qui dépassait les attentes. L'Asie-Pacifique et l'Amérique latine vont pas mal, mais l'Amérique du Nord reste quand même un tout petit peu en berne. Et en revanche, les marges déçoivent, c'est surtout là-dessus qu'on a appuyé, les marges déçoivent, tout comme les perspectives 2024 de Straumann. L'EBIT est inférieur aux attentes. Toutefois, les experts rappellent que la direction du groupe a toujours eu une historique assez prudente dans ses prévisions. Donc vous voyez qu'en fin de semaine, on n'a pas trop aimé l'annonce, mais l'un dans l'autre, eh bien, Straumann reste au milieu de nulle part, j'ai envie de dire. D'un point de vue technique, vous voyez qu'on est venu buter sur les 133,70. Si on essaie de trouver un range là au milieu, on revient sur les 121 au plus bas. Donc pour l'instant, on est un peu coincé là dans tout ça. Quand on voit les publications, ils sont plutôt prudents. Donc à voir si on arrive à sortir de cette espèce de double top qu'on est en train de faire à très court terme. Et si on va s'établir en direction des 140, voire mieux, les casser, ça voudrait dire qu'on est en train de passer au-dessus de cet ancien top. Et là, peut-être qu'on pourra dire qu'il y a un nouveau mouvement qui est en train de se dessiner. Mais en attendant, surveillez bien ce range. Zurich Assurance a annoncé jeudi dernier un bénéfice d'exploitation annuel légèrement supérieur aux attentes. Alors que l'assureur est en train de surmonter l'impact des catastrophes climatiques et des guerres. Elle a également déclaré qu'elle proposera l'élection de Thomas Jordan, l'ancien boss de la BNS, qui devrait rentrer à son conseil d'administration. Ensuite, ce qu'il faut retenir surtout, c'est que c'est quand même le cinquième assureur européen. Ils ont déclaré un bénéfice d'exploitation de 7,8 milliards de dollars pour l'année dernière, qui dépassait un peu l'estimation qui était à 7,7 milliards. Et puis, le titre termine donc au plus haut de tous les temps. Et si les chiffres sont pas non plus ceux d'une boîte qui vendrait des semi-conducteurs pour l'intelligence artificielle, les analystes ont quand même qualifié les chiffres de rassurants. La boîte est solide, bien gérée, et le rendement du dividende est quand même de 4,5%. Donc Zurich fait partir des gros ponts de l'assurance, et ça va plutôt pas mal chez eux. Voilà, je vous montre le graphique pour la bonne bouche, mais il n'y a rien à dire. Vous voyez que techniquement, la tendance est établie, les moyennes mobiles se rapprochent quasiment pas, vous voyez que les écarts restent plutôt stables entre les moyennes mobiles, c'est vraiment boum, la voie est toute tracée, donc s'il n'y a pas de bump in the road, comme on dit, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Zurich est sur une tendance haussière et on devrait bientôt la retrouver en direction des 600 dollars, des 600 francs suisses, pardon, dans un premier temps. Mais l'un dans l'autre, la tendance est bien établie. Donc rien à dire du niveau graphique chez Zurich, ou alors il faudra aller pinailler pour trouver du court terme. Mais là, la tendance est clairement affichée. Alors, en vrac, Novavest a réalisé des bénéfices nettement plus élevés en 2024. La fusion avec Senior Residence, qui est intervenue mi-juin, a donné un coup de pouce à la société. Software One a augmenté son chiffre d'affaires en 2024 de 0,6% à 1,02 milliard de francs suisses. La banque privée EFG International a accentué ses pertes après avoir annoncé un bénéfice net en hausse de 6% à 321,6 millions de francs suisses en 2024. Temenos a confirmé mardi dernier la progression de ses ventes annuelles de 4% à 1,04 milliard. Le résultat opérationnel a lui connu une hausse de 13% à 354,6 millions. Sembra Money Bank, spécialisé dans les cartes de crédit et l'octroi de crédit, crédit à la consommation surtout, où ils ont vu leur bénéfice net progresser de 8% sur un an à 170,4 millions de francs suisses. Le marché a beaucoup apprécié. Holcim a également annoncé le nom de sa future entité issue de la scission de ses activités nord-américaines. Elle sera baptisée Amrize et elle sera cotée à la fois à New York et à la bourse suisse, et ce sera fait avant la fin du mois de juin. Et toujours pas de croissance chez Calida en 2024, malgré une rentabilité opérationnelle en berne. Malgré tout ça, le groupe a quand même retrouvé des chiffres noirs et ils ont annoncé un nouveau directeur général. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'on pouvait raconter dans ce Swiss Bliss. La semaine prochaine, il y aura les chiffres de Nvidia mercredi soir, on vous le dit et répété, mais aussi le Consumer Confidence qui sortira mardi et qui soudainement va prendre toute son importance par rapport à ce qu'on a discuté au niveau d'un éventuel ralentissement économique aux États-Unis. Puis il y aura bien sûr le PCE en fin de semaine, ce qui nous donnera l'occasion de reparler de croissance économique et d'inflation. Bref, ça va être super sympa et moi je suis pas là. Enfin bref, n'oubliez quand même pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, de liker, de partager, de commenter, et nous on se retrouve lundi pour une vidéo spéciale sur le fonds LTCM, puis mardi pour une vidéo sur les stars qui vous rendent riche sur 100 ans, et mercredi pour une vidéo sur Nick Leeson. Jeudi, vous aurez une émission spéciale depuis la montagne à propos de Nvidia, et puis vendredi, on parlera de Warren Buffett, ensuite Swiss Bliss dimanche prochain, et retour du Morning Bull pour le premier lundi du mois de mars. Passez un excellent week-end, et pour ceux qui partent à la montagne comme moi dans 3 minutes, eh bien, profitez bien, et à tout bientôt. Bye bye.